Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 14 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer, les titres. Au Mali, l'ONU craint une attaque djihadiste contre Ménaka après le départ de l'armée française de cette localité. Au Togo, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans le nord. Après deux attaques djihadistes au Sénégal, c'est la perpétuité pour un chef rebelle en fuite et deux autres prévenus pour un massacre en Casamance. En RDC, la rébellion du M23 occupe la localité de Bunagana à la frontière ougandaise. Kinshasa accuse Kigali d'invasion de la RDC. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky réclame des armes modernes à l'Occident alors que Severodonetsk est coupé du reste de son pays. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, une attaque djihadiste pourrait intervenir contre la ville de Ménaka après le départ de l'armée française de cette localité du nord-est du pays. C'est ce qu'a indiqué hier l'émissaire de l'ONU au Mali pendant une réunion du Conseil de sécurité Mohamed Houmfa.
L'armée française a quitté lundi sa base militaire de Ménaka, avant-dernière étape de son retrait définitif du Mali. Al-Ghassim Wane, chef de la MINUSMA, a déclaré devant le Conseil de sécurité que depuis le début de cette année, il a constaté une détérioration de la zone des trois frontières avec des effets conséquents sur les régions de Ménaka et de Gao. Avec un minimum de forces maliennes dans la région et quelques 600 soldats de la paix disponibles, il a averti que la capacité de la MINUSMA à organiser une réponse efficace est limitée. Le mandat de la MINUSMA expire à la fin de ce mois et l'ONU discute de son renouvellement. La France a donc proposé de poursuivre son soutien aérien à la MINUSMA de l'extérieur, d'après l'ambassadeur français Nicolas de Rivière à l'ONU. Le Mali s'oppose fermement à tout soutien aérien que Barkhane pourrait apporter à la MINUSMA sur son territoire, a répondu Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Selon lui, après le retrait unilatéral de la France et la dénonciation des accords de défense par Bamako, il n'y a ni cadre politique ni base juridique pour une telle intervention, promettant que le Mali va contribuer à la sécurité des casques bleus sur place.
Au Burkina Faso, au moins 50 civils sont morts ce week-end dans une attaque de djihadistes présumés contre le village de Seitenga dans le nord du pays, un des plus lourds bilans depuis la prise de pouvoir de la junte militaire en janvier. Ce bilan serait plus lourd selon un rescapé contacté par téléphone par Bagassi Koura. Ce sera en seconde partie de cette édition. Au Togo, le gouvernement a décrété hier l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes, zone située dans l'extrême nord du pays, ayant enregistré deux attaques terroristes selon un communiqué officiel. L'armée togolaise est déployée depuis plusieurs années dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. Au Sénégal, un chef rebelle de Casamance en fuite et deux autres hommes ont été condamnés hier à la prison à perpétuité pour assassinat et insurrection armée. Leur condamnation est liée au massacre de 14 hommes dans cette région sud du Sénégal. Le point avec Abdourahmane Dia.
César Atout Badiate, chef d'une faction militaire du mouvement des forces démocratiques de Casamance, ainsi qu'un membre de ce mouvement rebelle, Omar Ampoué Bodjan, et un journaliste, René Capin-Bassène, ont été condamnés à la prison à vie par le tribunal de Ziguinchor, principale ville du sud du Sénégal. Le tribunal a suivi les réquisitions prononcées par le parquet en avril. 11 prévenus ont été acquittés et 2 condamnés à 6 mois de prison avec sursis. 16 personnes répondaient de vol en réunion avec usage d'armes, assassinat, prise d'otages, séquestration, insurrection armée et association de malfaiteurs en relation avec la mort le 6 janvier 2018 de 14 hommes partis chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte proche de Ziguinchor. Ils avaient été rassemblés puis tués froidement par des individus armés. Le journaliste René Capin-Bassène a été présenté comme le cerveau de ce massacre, ce qu'il a contesté au cours du procès. L'avocat des prévenus, maître Siré Clédorli, dénonce ce qu'il appelle une escroquerie judiciaire. Il a annoncé un appel pour Omar Ampouy-Bodian. M. Bassène avait déclaré, selon l'avocat, qu'il ne ferait pas appel s'il était condamné.
En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés hier de Bunagana, un important centre de commerce transfrontalier entre la RDC et l'Ouganda, dans l'est du pays, a reconnu dans la journée, sous couvert d'anonymat, un officier congolais. L'armée congolaise vient de céder en entrant en Ouganda, indiqué de son côté Damien Sebusanana, responsable d'une association locale de la société civile qui se trouvait lundi matin à la frontière ougandaise. L'armée congolaise a accusé le Rwanda d'être derrière cette invasion de son territoire. Kigali nie tout soutien au M23. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a condamné lundi énergiquement le projet du gouvernement britannique d'envoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les premiers vols vers Kigali sont prévus ce mardi, Nathalie.
La justice britannique a annoncé hier qu'elle rejetait les derniers recours contre les expulsions de migrants au Rwanda, alors que les premiers vols sont prévus aujourd'hui mardi. Au cours d'une conférence de presse hier à Genève, le patron du HCR, Filippo Grandi, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, on parle d'un pays avec des structures et des ressources qui exportent ses responsabilités vers un autre pays, le Rwanda. Il estime que cela crée un précédent catastrophique et pourrait inciter d'autres pays qui reçoivent de nombreux migrants à avancer les mêmes arguments pour fermer leurs frontières. Filippo Grandi confie qu'il éprouve de la peine pour les gens qui font ces voyages dangereux. Il ressent aussi de la révulsion pour ceux qui en profitent. Ce sont des criminels qui doivent être poursuivis, jugés et condamnés parce qu'ils commettent des crimes gravissimes, a souligné M. Grandi. Dire « on ne prend plus ces migrants, retournez chez vous », ce n'est pas juste, a-t-il conclu.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky presse les Occidentaux de lui envoyer des armes modernes pour enrayer ce qu'il a appelé le coup humain terrifiant infligé par les troupes russes au moment où la ville clé de Severodonetsk est isolée mardi du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pont l'y reliant. La bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe, a affirmé M. Zelensky hier soir dans son allocution quotidienne. Les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de Severodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe sur cette ville que les deux belligérants se disputent depuis des semaines. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a infligé un revers aux droits des migrants illégaux détenus après avoir traversé la frontière dans des cas qui ont opposé l'administration américaine aux défenseurs des droits des migrants. Le point avec John Linden.
La Haute Cour a statué que les migrants n'ont pas de droit constitutionnel à une audition de cautionnement qui pourrait permettre leur libération après avoir passé 6 mois en détention. Deux affaires jugées lundi par la Cour suprême portaient sur les demandes d'audition des citoyens mexicains qui ont été arrêtés par les autorités américaines après avoir franchi illégalement la frontière sud. Dans les deux cas, les personnes concernées ont déjà été expulsées des États-Unis et ont tenté de revenir dans le pays. Les détenus ont refusé d'être renvoyés au Mexique au motif qu'ils risquaient d'être persécutés ou torturés et dans l'un des cas, ils ont demandé l'asile. Les autorités américaines qui détiennent ces sans-papiers depuis des mois avant la procédure officielle d'expulsion se sont opposées à une audience de libération sous caution au motif qu'elle pourrait conduire à la disparition de ces migrants.
Ici à Washington, une commission parlementaire a fourni hier une chronologie troublante de la façon dont l'ancien président Donald Trump a tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite à l'élection présidentielle de 2020, assurant que l'élection lui avait été volée malgré les dénégations répétées de ses plus proches fidèles. La commission a joué des extraits de témoignages de son ex-ministre de la Justice, William Barr, et d'un certain nombre de ses conseillers et même sa propre fille, Ivanka Trump. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, des délégations régionales du ministère du Commerce ont engagé des campagnes de vente de produits de première nécessité dans plusieurs villes où la population est confrontée à la flambée des prix. À Maroua, dans l'extrême nord, l'huile végétale raffinée est vendue à 1150 francs CFA le litre. La délégation départementale du Mfundi organise aussi des ventes d'huile, de poissons, de riz et de pâtes alimentaires à Nlongkak. Le Togo va se doter d'un modèle de prévision des recettes fiscales dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique. Selon Togo Presse, les autorités ont lancé une offre de recrutement. Les dossiers des consultants seront reçus jusqu'au 22 juin. Ce programme, financé par la Banque mondiale et l'Union européenne, vise à améliorer la gestion des investissements publics et la mobilisation des recettes. Les pays membres de l'OMC sont réunis à Genève depuis dimanche. Ils doivent se mettre d'accord sur la pêche, les brevets des vaccins anti-Covid, une stratégie pour contrer la crise alimentaire mondiale et bien d'autres questions. La directrice de l'organisation, Ngozi Okonjo-Iweala, aux commandes de l'organisation depuis 15 mois, s'est dite prudemment optimiste sur l'issue de la rencontre.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les derniers matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se sont disputés hier.
Oui, le Nigeria a malmené Sao Tomé et Principe 10-0 avec un quadruplé de Victor Osimhen et un doublé d'Emmanuel Denis. Le Maroc a dominé le Libéria 2-0, 2-2 entre la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Les deux prochaines journées sont prévues pour septembre 2022 et les deux dernières en mars 2023, avant la phase finale prévue en Côte d'Ivoire en juin-juillet 2023.
Football toujours, les cinq changements validés définitivement.
Les cinq changements par équipe et par match au lieu de trois ont été validés définitivement par l'International Board, garant des lois du football. Cela ouvre la voie à des listes de 26 joueurs et non plus 23 pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, un souhait de nombreux sélectionneurs. La pérennisation au 1er juillet du passage de 3 à 5 changements par match dans toutes les compétitions organisées par la FIFA répond aux souhaits des acteurs du jeu, explique Patrick Nelson, le dirigeant de la Fédération irlandaise. Les essais de changement définitif en cas de commotion cérébrale ont aussi été prolongés jusqu'à août 2023 afin de collecter suffisamment de données pour prendre une décision scientifique valide.
L'Australie décroche l'avant-dernier billet du Mondial 2022.
L'Australie est l'avant-dernier pays qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar après avoir écarté au tir au but le Pérou. 5 tirs réussis contre 4, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les Australiens ont obtenu leur place dans le groupe D où ils affronteront les champions du monde français, le Danemark et la Tunisie. Ce sera la sixième Coupe du monde de l'Australie après 1974, 2006, 2010, 2014 et 2018. Il ne reste qu'un billet sur 32 à décrocher pour la première Coupe du monde de foot dans un pays arabe. Ce mardi, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande tenteront d'intégrer le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.
Ajoutons qu'en finale NBA 2022, les Warriors, grâce à Andrew Wiggins et Klay Thompson, se sont imposés 104 à 94 aux dépens des Celtics lundi au Chase Center de San Francisco pour prendre l'avantage 3 victoires à 2. S'ils remportent le match numéro 6 jeudi à Boston, ils seront champions pour la 7e fois de leur histoire, la 4e en 8 ans. Si Boston parvient à gagner sur son parquet pour égaliser à 3-3, un 7e match décisif, de nouveau à San Francisco dimanche, décidera de l'équipe qui sera sacrée championne.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. C'est toujours le choc au Burkina Faso après l'attaque de samedi qui a visé le village de Setenga dans le nord du pays. Selon des témoignages recueillis par VOA Afrique, des assaillants ont d'abord quadrillé le village dans la nuit de samedi avant d'ouvrir le feu sur tout ce qu'ils croisaient. Jusqu'au petit matin, ils passaient de porte à porte. Les habitants parlent d'un massacre dont le bilan est bien plus lourd que les 50 annoncés par le gouvernement. Écoutez ce rescapé qui dit être retourné lundi à Setenga pour enterrer 11 de ses proches dans une fosse commune. Il affirme que Setenga est une ville fantôme jonchée de corps de victimes. Joint par Bagassi Koura, il a, pour des raisons évidentes de sécurité, requis l'anonymat.
Non, le bilan va plus de 50 morts, une centaine même.
Sur quoi vous vous basez alors?
Moi-même, j'étais sur le lieu, même ce soir, j'étais sur le lieu.
Et vous avez pu compter plus d'une centaine de morts?
Aujourd'hui, on n'a pas pu compter parce qu'il y a d'autres qui sont dans les maisons, donc on n'a pas pu fouiller tout le village. Donc, parce que tout le village, ça va prendre du temps. Et puis, comme on n'était pas nommé, donc on a dû réfléchir pour repartir demain encore. Nous, on n'a même pas fait plus de 100 mètres. Il y avait plus de 50. On n'a même pas fait plus de 100 mètres. On ne parle même pas tout le village en plus.
Vous n'avez pas fait plus de 100 mètres et vous avez vu combien de corps?
Il y a plus de 50.
Quand vous êtes allé ce lundi à Setenga, comment était la situation? Oui. Décrivez-nous ce que vous avez vu.
Le village était entièrement dévasté. Le village, il n'y a pas. Il n'y a personne. Si tu vois que c'est un animal, ils sont les cadavres nationaux qui sont là-bas actuellement. Et quelques-uns de l'armée qui sont venus, qui n'ont pas été du tout compatibles de ce pays. Je ne sais pas où c'est là. Il y a même pas ce là-bas actuellement. Les cadavres sont dans les rues parce qu'il y a d'autres qui avaient couru pour se secourir dans des maisons. Donc quand on se trouve dans la maison, là-bas, on se tue, il réussit et puis il part. Parce que quand j'étais venu, ils avaient fait des portes en porte. Et encore, on ne peut pas exprimer. Le village est très large. On a plus de 4 quartiers. Et puis, j'ai presque tout le village. Donc, imaginez, regardez, de quoi t'en porte. Et quand ils étaient réfugiés dans leur maison, ils étaient détruits. Quand on ne sait pas la famille qui est revenue, on ne peut même pas réfugier les gens. Parce qu'il y a des cons, même qui ne peuvent pas. Même si on a plus du village, il y a des cons qui ne peuvent pas aller actuellement.
Lundi, quand je vous avais eu, vous aviez dit que vous étiez au cimetière. Est-ce que c'était pour enterrer certaines de ces victimes?
On n'était pas au cimetière. On n'a pas pu amener parce que les corps étaient en décomposition. Donc, pour les transporter, on ne pouvait même pas les transporter. Il y avait beaucoup de bébés, donc c'est difficile de s'approcher. Donc on a fait une sorte là-bas, on a pu mettre une dizaine et puis on est parti. Parce qu'on n'a pas pu faire, on ne sait pas au nombre complet pour qu'on puisse les enterrer tous. Donc on a fait que c'était nos parents proches et on a pu mettre dans la sorte. On a mis une dizaine là-bas mais aussi on a réduit pour des retours et demain. En espérant que demain, si on a eu le temps, on va repartir voir ce qu'on pourra faire encore.
Et combien de parents vous avez inhumé?
Aujourd'hui, on a inhumé 11 qu'on a eu à mettre dans le secteur. Parce qu'on a fait une fausse commune de mettre une petite là-bas.
Est-ce que les autorités vous aident?
Non. C'est celui qui m'a été parti là-bas, c'est lui qui m'a. Les autorités ne nous ont pas aidés. Ils étaient là-bas en train de suivre, ils partaient et revenaient. Et sinon, dans les travaux, ils n'ont pas aidé.
Joint par téléphone, un rescapé de Setenga, théâtre d'un récent massacre dans le nord du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Concertation de haut niveau depuis hier à Yaoundé sur la sécurité, la délimitation et la démarcation des frontières entre le Cameroun et la République centrafricaine. Selon les autorités des deux pays, plusieurs points d'incertitude font encore l'objet de mauvaises interprétations sur le tracé de la frontière entre le Cameroun et la RCA dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
La région de la Damawa au Cameroun partage plus de 160 km de frontière avec la République centrafricaine. À certains points de cette frontière, Camerounais et Centrafricains ne s'entendent pas sur le tracé de ces lignes de démarcation entre les deux pays. Kidadi Takye de Boukar, gouverneur de la Damawa.
Précisément au niveau de l'arrondissement d'Engawi, il y a quelques petites portions qui sont de temps en temps réclamées, entre guillemets, par la Centrafrique. Vous vous souvenez également qu'à un moment, notre drapeau au niveau de Batadi Bata a été descendu par un groupe de l'armée centrafricaine. Mais vite fait, nous avons rétabli la situation. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments.
Selon les autorités camerounaises, il y a au moins 3 points dans la région de la Damawa où la délimitation prête à confusion. La dernière concertation sur ce litige s'est tenue en 2010. 12 ans après, les deux voisins plaident pour la démarcation définitive de la dite frontière. Bruno Yapande, ministre de l'administration du territoire de la Centrafrique.
Il y a eu déjà des recommandations issues des premières rencontres qui ont eu lieu entre les deux parties. Ces recommandations-là seront évaluées, explorées et trouver la bonne décision à prendre.
Mais, à cause des multiples conflits armés en RCA, la sécurité transfrontalière préoccupe les autorités camerounaises. Plus d'une fois, le Cameroun a dû déployer ses troupes à la frontière avec la RCA. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale.
L'on note la persistance, voire la recrudescence de la criminalité transfrontalière, la multiplication des actes de grand banditisme matérialisés par des enlèvements et demandes de rançons, la transhumance illégale, les infiltrations des bandes armées, le trafic des armes et des munitions, le braconnage, le trafic des espèces fauniques, l'exploitation illicite des ressources naturelles.
Bruno Yapande, son homologue centrafricain, est conscient des enjeux.
Nous attendons faire au cours de ces travaux pour trouver les solutions plausibles à la maîtrise de la sécurité au niveau de la République centrafricaine et du Cameroun pour que nos frontières soient véritablement fluides et puis accessibles.
Le Cameroun partage avec la RCA une frontière de près de 800 km. Cette délimitation couvre 2 régions, l'Est et la Damawa. Ce processus de réaffirmation du tracé de la frontière entre les deux pays se fait avec l'appui des experts de la coopération allemande pour le développement. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Sénégal, la Tabaski ou fête du mouton approche à grands pas alors que les tensions politiques et les dures réalités économiques secouent les populations. Ces dernières appellent les hommes politiques à plus de responsabilités et l'État à apporter des solutions à la conjoncture actuelle. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Le 10 juillet 2022, premier jour de la campagne électorale, va coïncider avec la Tabaski d'après les premières annonces de la Commission du Croissant Lunaire qui est chargée de fixer les jours de fête musulmanes au Sénégal. Beaucoup de citoyens, comme Vieux Diop, espèrent une accalmie durant cette période.
On lance un appel aux politiciens pour qu'ils ne profitent pas de la crise économique pour mettre la population dans des situations difficiles en attisant les tensions. C'est valable pour le parti au pouvoir comme pour l'opposition. Ils doivent respecter les Sénégalais et les institutions pour consolider les acquis démocratiques.
Mais ils respectent les institutions, oui.
Babaya espère de son côté que les hommes politiques ne vont pas pénaliser les commerçants avec des appels à manifester qui risquent de créer des affrontements.
Les tensions politiques ne font que mettre le pays dans l'impasse. Avec la tabasque qui se profile, les gens ont d'autres soucis en tête que les manifestations ou les violences politiques qui les empêchent de vaquer à leurs occupations. En réalité, les manifestations impactent sur le gagne-pain des populations en bloquant leur circulation ou en les obligeant à fermer très tôt leur commerce. En cette période de préparatifs pour la tabaski, ça risque d'être compliqué à gérer.
Les autorités doivent parler moins politique et gérer la crise que traverse le pays, c'est la conviction de Serigne Baye.
C'est difficile de circuler. L'essence est chère, les prix des transports aussi. Avant de parler de la politique, il faut s'occuper du bien-être des populations. La flambée des denrées de première nécessité est inexplicable. On dirait que la régulation des marchés publics n'est pas effective, car les prix grimpent sans cesse. Il faudrait que l'État nous explique ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une surveillance par rapport à la hausse des prix? Il faut éclairer la lanterne des Sénégalais.
À moins d'un mois de la fête de Tabaski et du début de la campagne électorale pour les législatives, beaucoup de Sénégalais sont préoccupés par la situation économique tendue. Pour eux, les hommes politiques doivent plus penser aux intérêts de la population en pareille circonstance. C'est Nabagé à Dakar pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses personnes non-voyantes qui ne sont pas nées avec ce handicap, des épreuves qui peuvent survenir à n'importe quel âge au cours de la vie. Comment vivent-elles ce passage de la vie de voyant à celle de non-voyant? Un reportage de notre correspondante Aïcha Diarra.
Vraiment, quand on perd la vue nouvellement, c'est pas facile, pas du tout facile. Quel que soit le soutien que les gens vont faire, vraiment, c'est pas facile. Vraiment, c'est Dieu même qui nous aide vraiment à soutenir vraiment ce petit temps-là. Et quand c'est comme ça, tu perds tout.
Abdoulaye Kone a perdu la vue alors qu'il avait presque 20 ans, l'âge de tous les espoirs. Comme lui, Bassoro Kamarate avait 30 ans et venait de finir son stage à l'Institut Pasteur d'Abidjan après un BTS en chimie contrôle qualité. Il a été rappelé quelques mois plus tard pour la signature d'un contrat avec l'Institut Pasteur. Alors, il les informe qu'il est devenu non-voyant.
Ne croyant pas, le premier responsable a demandé mon numéro et il m'a appelé pour me déplacer à l'Institut Pasteur. Et c'est ainsi que je me suis rendu à l'Institut Pasteur. Et lui-même, il s'est rendu compte que, effectivement, c'est une réalité. Sinon, perdre la vue, sincèrement, c'est si comme on enlevait même la terre sous tes pieds. Je vous assure, c'est pas chose facile. Quand j'ai perdu la vue, c'est un seul de mes amis qui m'est resté fidèle. Un seul, Sogodogo Daouda.
Des difficultés qui s'étendent même souvent jusqu'au sein de ta propre famille.
Même à la maison, c'est difficile. Et souvent, les gens, ils ont toujours dans leur tête que tu vois. Oh, c'est pas ça. Pour m'adapter à la maison, il faut maintenant leur dire tout ce que je dépose. Je veux pas que quelqu'un déplace pour pouvoir me retrouver facilement. Sinon, ouais, ça devient difficile et fastidieux quand tu dois maintenant venir te mettre à chercher.
Baroma Kounadi a perdu la vue à l'âge de 12 ans alors qu'elle était en classe de 6e. Et elle aussi, elle a comme vue son monde s'écrouler devant elle.
J'aimais beaucoup jouer au foot, j'aimais beaucoup regarder aussi le foot. En tout cas, tout ce qui est amusement, j'aimais bien ça. Et puis découvrir les différents endroits. Et puis moi, pendant que j'étais valide, j'ai jamais vu de non-voyant. Donc quand moi je suis devenue non-voyante, j'ai pensé que j'étais la seule non-voyante au monde. Je me rappelle même que lorsque papa est venu m'annoncer que je dois intégrer l'Institut des aveugles, systématiquement j'ai fondu en larmes parce que moi, j'avais pas dans le programme de fréquenter l'Institut des aveugles, de faire comme les non-voyants. J'avais pas ça en programme. Pour moi, c'était un mal passager. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
D'autres comme Mamadou Abdoulkader ont pensé même au suicide.
Tu passes à gauche, tu as du mal à marcher. Tu vas à droite, tu as du mal à marcher. Même quand par moi je venais, que je voulais jouer au foot. Ah, toi quitte là, toi mais tu vas pas bien, mais tu es joué ballon. Bon, ça faisait que toutes ces frustrations-là, vraiment j'avais du mal à supporter. Il fut un jour où je me suis assis en plein milieu de la cour et puis j'ai pris une machette. Et non, aujourd'hui là, tout va finir. En ce moment, j'avais là de 15 ans. J'ai bien aiguisé la machette. Ma tante, quand elle a vu ça, vraiment, elle est intervenue sur le plus vite. Et puis, elle m'a arraché ça. Elle m'a dit, plus jamais je vais faire ça. Et c'est cette dernière-là, maintenant, qui a commencé maintenant à me faire des remontrances. Elle me dit maintenant des belles paroles pour m'encourager à surmonter le mal.
Donc, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. C'est une devise de l'Institut des aveugles d'Abidjan. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia, à la mise en ondes Lionel Gahima et à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.